le journal par Clarence Rodriguez.
Bonjour. Appel à la convergence des luttes pour l'acte 24 des Gilets jaunes, appel signé par un collectif associatif, syndical et partisan, parmi les signataires la CGT, les Gilets roses ou encore la France insoumise. Nous entendrons dans ce journal le secrétaire général de la Fédération du commerce de la CGT, Amar Laga. Ouverture d'une enquête interne à l'université de Lorraine pour une affaire de racisme. Des étudiantes échangeaient depuis plusieurs mois des messages sur Facebook pour se moquer ou insulter des élèves et des professeurs noirs. Au Sri Lanka, les enquêteurs tentent de répondre à de nombreuses questions suite aux attentats survenus dimanche dernier. Un commando de 8 personnes ayant prêté allégeance à Daesh en est responsable. Reportage à Colombo de Sébastien Farcy. Appel à la convergence des luttes pour l'acte 24 des Gilets jaunes. Appel signé par un collectif associatif, syndical et partisan. Parmi les signataires, la CGT, les Gilets roses ou encore la France insoumise. Le cortège parisien doit s'élancer de la gare Montparnasse à 13h pour rejoindre la place d'Italie. Objectif, greffer les mécontentements contre la politique menée par les gouvernements. Quelques jours avant le grand défi du 1er mai, une convergence déjà tentée dans le passé sans réussite. Mais cette fois, le secrétaire général de la Fédération du commerce de la CGT, Amar Laga, veut croire aux liens créés entre les mouvements ces dernières semaines. Amar Laga répond au micro de Steven Goyer.
Depuis des mois dans des territoires, si je prends les Bouches-du-Rhône, parce qu'ils sont, font partie aussi des signataires, dans les Bouches-du-Rhône, tous les samedis, depuis des mois, il y a une convergence, il y a des hommes et des femmes qui se réunissent, qui manifestent ensemble avec leur gilet rouge, jaune. Vous prenez dans le 94 aussi, et dans d'autres départements, ça fait des mois que la convergence elle est mise dans les territoires. Et aujourd'hui, effectivement, on estime qu'il faut peut-être donner du sens à tout cela et créer un nouveau rapport de force pour faire reculer ce gouvernement. Et on a bien fait de lancer, la preuve en est, suite aux réponses du président de la République, rien sur le pouvoir d'achat. Mais rien. Moi, je suis prêt à discuter avec qui le souhaite, quelles sont réellement les mesures du pouvoir d'achat. Les premières exigences dans ce pays, c'est d'augmenter les salaires. Nouvelle répartition des richesses. Mais c'est pas le cas. Si chacun reste dans son coin, ça ne marchera pas.
Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes battront à nouveau le pavé aujourd'hui à Strasbourg, où un appel international a été lancé sur les réseaux sociaux. Mobilisation prévue à Toulouse, à Paris. Il faut s'attendre aussi à des perturbations sur le périphérique lyonnais avec une opération escargot et cette crainte encore une fois de débordement de violence. Il n'y a rien dans les annonces du président de la République. Réaction ce matin du secrétaire général de la CGT chez nos confrères d'Europe 1 après la conférence de presse de clôture du grand débat. Pour Philippe Martinez, Emmanuel Macron ne s'attaque pas aux vrais problèmes, notamment celui d'un meilleur partage des richesses. Il reproche au chef de l'État de ne pas revenir sur la suppression de l'ISF et craint que la réforme des retraites accentue la pauvreté des retraités. L'université de Lorraine vient d'ouvrir une enquête interne pour une affaire de racisme. Des étudiantes de la faculté de sciences humaines et sociales de Metz, en licence de sociologie, s'échangeaient depuis plusieurs mois des messages sur Facebook pour se moquer ou insulter des élèves ou des professeurs noirs. Les précisions de Cécile Soulet de France Bleu Lorraine.
C'est sur un groupe Messenger que ces étudiantes s'amusaient à prendre en photo des élèves ou des enseignants noirs à leur insu et se moquer d'eux, des messages ouvertement racistes avec parfois des émoticônes de singes. Il s'agirait, selon une enseignante, de deux ou trois étudiantes de 19 ans, bonnes élèves, d'où la surprise du professeur qui ne s'y attendait pas et qui se dit choqué. Le problème a été dénoncé hier matin à la fac. Les victimes s'en sont aperçues visiblement lors d'un voyage scolaire. Une élève qui se dit victime témoigne sur les réseaux sociaux.
Ils prennent les noirs en photo, ils se moquent de nous en se moquant de ce qu'on porte, en nous traitant de singes. On leur a traité de racistes, on s'est pas laissé faire. On est de braves gens, contraire à eux. Vraiment, on est fiers d'être noirs. On vient pour chercher une bonne éducation. On part en cours. Et c'est pour voir ces genres de choses.
Le syndicat étudiant LUNEF, choqué aussi, parle de faits inadmissibles, d'attitudes immatures à l'opposé des valeurs de l'université, lieu de formation et d'ouverture d'esprit. La direction de l'université de Lorraine condamne très fermement ces messages. Elle va ouvrir une enquête interne pour identifier précisément ces auteurs et voir quelles réponses juridiques apporter.
La police a identifié les 8 terroristes qui se sont fait exploser dimanche dernier dans les églises et les hôtels de luxe du Sri Lanka. La plupart ont fait des études supérieures et viennent de milieux aisés. Deux d'entre eux qui ont attaqué les deux plus grands hôtels de Colombo sont des frères d'une famille de riches industriels de Colombo. L'envoyé spécial de RFI au Sri Lanka, Sébastien Farcy, s'est rendu dans leur principale usine.
C'est un énorme entrepôt en plein air situé dans la banlieue nord-est de Colombo. De gros câbles et des transformateurs électriques jonchent le sol. Cette usine de la famille Ibrahim travaillait le cuivre et c'est sous cette couverture que les deux fils devenus islamistes auraient fabriqué certaines bombes utilisées pour les attentats de dimanche. Dans l'atelier de bois voisin, un des travailleurs se souvient d'hommes distants mais très riches.
Nous les voyons passer dans une BMW ou un gros 4x4. Il y a 3 mois, ils ont commencé à construire de nouveaux étages pour leurs usines et cela a endommagé notre mur. Dès qu'on leur a signalé, ils se sont tout de suite excusés et ont refait tout notre mur 2 fois avec un béton meilleur que celui que nous avions. Cela a dû leur coûter des millions.
L'implication de cette famille a choqué tout le Sri Lanka. Le père, Mohamed Ibrahim, est l'un des plus grands exportateurs d'épices du pays, bien introduit dans le milieu économique. Et ses deux fils ont étudié à l'étranger. Un restaurateur du quartier se souvient d'une famille généreuse et pieuse.
On ne le voyait pas souvent, le fils portait simplement une petite barbe, il était sobre. Mais pendant le ramadan, ils offraient de la nourriture à tout le quartier, ce qui est très bien vu dans l'islam. Ils nous aidaient un peu, alors qu'est-ce qu'on pouvait faire?
La police a arrêté plus d'une dizaine de personnes dans ce quartier, mais la population demande maintenant qu'elle enquête sur les possibles protections politiques dont ces riches entrepreneurs ont pu bénéficier.
Le procès de Carol Ghosn pourrait être reporté en 2020. Le tribunal du district de Tokyo avait pourtant évoqué un procès en septembre, mais il est revenu sur sa décision, selon les informations de l'agence de presse japonaise Kyodo News. Les actionnaires de Bayer désavouent la direction 1 an après le rachat de Monsanto, une AG de plus de 14 heures, s'achevant par un vote de défiance à l'égard de la direction. C'était du jamais vu dans l'histoire du DAX, le principal indice boursier allemand. L'assemblée générale de Bayer, qui s'est tenue hier à Bonn, s'annonçait périlleuse, tant la colère gronde chez les actionnaires depuis le rachat du semencier américain Monsanto par le géant allemand de la chimie. Le président de Bayer, Werner Baumann, savait qu'une rude journée l'attendait lorsqu'il s'est présenté hier vers 10h devant ses actionnaires. À Berlin, la correspondance de Nathalie Versieux.
Dehors, des apiculteurs qui ont déversé des milliers d'abeilles mortes devant les portes, des défenseurs de l'environnement hostiles au modèle d'agriculture intensive que représente Monsanto. À l'intérieur, des milliers d'actionnaires en colère depuis que leur entreprise a perdu 40% de sa valeur boursière suite au rachat de Monsanto en juin 2018. Bayer avait alors racheté pour 63 milliards de dollars le fabricant du Roundup, ce désherbant au glyphosate, accusé de provoquer des cancers. Aux États-Unis, une avalanche de 13 400 plaintes de personnes malades après avoir utilisé le Roundup pourrait coûter des milliards de dollars de dommages et intérêts. La colère des actionnaires Werner Baumann l'a subie de plein fouet pendant plus de 10 heures. Une soixantaine de porteurs se sont succédés au micro, accusant la direction d'avoir sous-estimé les conséquences financières de ces procès pour Bayer. Vers minuit, le couperet est finalement tombé, 45,5% seulement des actionnaires ont accordé au directoire le quitus. Le vote n'est pas contraignant, mais difficile d'imaginer que Werner Baumann puisse survivre à un tel affront. La direction de Deutsche Bank, sanctionnée par un quitus de 60%, avait dû quitter le groupe.
L'Espagne joue-t-elle son destin ce dimanche? Les Espagnols sont en effet appelés aux urnes demain pour des législatives qui devraient marquer l'entrée de Vox, le parti d'extrême droite au Parlement. Un véritable bouleversement depuis la fin du franquisme. La gauche donnée en tête parviendra-t-elle à obtenir une majorité suffisante pour continuer à gouverner? Ou bien le pays se verra-t-il dirigé par une coalition droite, extrême droite? C'est tout l'enjeu d'un scrutin très incertain dans une Espagne très fracturée et en quête d'identité, comme nous l'explique Jaime Pastor, professeur de sciences politiques. Il répond aux questions de Marie-Pierre Véraud.
Il y a différentes lignes de fracture dans cette société. Il y a la fracture sociale, ce malaise, ce mécontentement face à l'arrêt, à la frustration d'expectatives d'amélioration qui vient de loin depuis 2008. Non, c'est le moment du 15 mai. Apparaît justement comme une réponse à cette fracture sociale. Non ? Il y a aussi cette fracture nationale territoriale. Il y a une conscience de la faiblesse du nationalisme espagnol pour arriver à reconnaître l'existence de différentes identités nationales, culturelles, dans le cadre de l'État espagnol. Non ? Mais il y a aussi une autre fracture liée justement à la mémoire historique, à l'apparition d'une nouvelle génération qui vraiment demande la vérité sur les répressions, les crimes du franquisme, sur la persistance d'un énorme nombre de personnes disparues à cause de cette répression. Mais cela est en but avec une partie de la société espagnole. Donc, c'est une combinaison de fractures, les uns qui viennent de plus loin et les autres plus près de nous, qui pourraient expliquer cet malaise, non, un malaise sur l'avenir de l'Espagne.
12h40 sur France Culture, la suite du journal.
La bulle économique, Marie Vienno.
Une bulle économique aujourd'hui consacrée à la santé et sécurité au travail, mais aussi aux risques évoqués dans un rapport qui vient d'être publié par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, à l'occasion de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, qui se tiendra demain. Éclairage de Marie Vienno.
Quand Charlie Chaplin a tourné Les Temps modernes en 1936, la prise en compte de la santé et de la sécurité au travail n'en était qu'à ses balbutiements. C'est en 1920 que le service d'hygiène industrielle a été créé au sein de l'Organisation internationale du travail. 1946, grand pas en avant, la déclaration de Philadelphie affirme que le travail n'est pas une marchandise et donne pour mission à l'Organisation internationale du travail d'œuvrer à la protection adéquate de la vie et la santé des travailleurs. Depuis, l'OIT publie recueils, directives, pratiques et conventions sur la sécurité et santé au travail, mais aucune n'est juridiquement contraignante. En 2019, 1000 personnes décèdent chaque jour d'accidents du travail et 6500 meurent chaque jour de maladies professionnelles. Sans conteste, il y a eu des progrès depuis les temps modernes. Mais l'Organisation internationale du travail alerte sur les risques nouveaux et émergents d'un monde du travail en constante mutation. Bientôt sera venu le temps des salariés augmentés. On ne parle pas de salaire, vous l'aurez compris, mais d'un plan qui permettrait d'augmenter la mémoire et même l'intelligence. Qui pourra s'y soustraire ? Autre danger, actuel celui-là, la virtualisation du travail. La virtualisation, c'est pour schématiser tous vos outils de travail disponibles sur un cloud. Ainsi, vous pouvez travailler de partout et tout le temps. C'est un plus pour qui veut faire du télétravail, mais cela brouille la frontière entre travail et vie privée et crée des risques psychosociaux. Autre risque, celui créé par l'utilisation des technologies, robots, automates ou intelligence artificielle. Ces technologies peuvent libérer les travailleurs de tâches salissantes, dangereuses ou dégradantes, reconnaît l'Organisation internationale du travail dans son rapport, mais elles peuvent aussi réduire l'autonomie professionnelle, les contacts humains, cantonner les salariés à des relations hommes ou femmes-machines, ce qui est facteur de stress et d'isolement. À ce titre, Amazon est vraiment une entreprise précurseuse. Les brevets qu'elle dépose donnent une idée assez claire du monde cauchemardesque qui attend les salariés si aucune loi ne vient freiner l'application de ce genre de brevets. Parmi eux, un bracelet qui vibre pour pousser les déplacements du salarié dans la bonne direction ou encore une cage métallique contrôlée par un robot. Dans la cage, le ou la salarié qui sera ainsi déplacé d'une étagère à une autre. Rassurez-vous cependant, Amazon a promis que le brevet de la cage ne serait jamais utilisé.
Atelier 20, vitesse maximum.
L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Or, la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des travailleurs pourrait devenir, alerte l'OIT, un moyen de soumettre les salariés à une surveillance sans limite. Versant positif, on peut dorénavant éviter des accidents. C'est le cas notamment des technologies qui surveillent la fatigue des chauffeurs routiers ou des opérateurs sur machines lourdes. Versant négatif, ces dispositifs permettent aussi d'augmenter la productivité sans limite. Une étude américaine pointe ses dérives. Exemple, le livreur UPS a installé plus de 200 capteurs dans ses camions. Outre le contrôle des pauses trop longues ou des excès de vitesse, cette surveillance a permis de mieux organiser les livraisons et en 4 ans, UPS a pu livrer 1,5 million de colis en plus avec 1000 salariés en moins. Cette tendance s'amplifie. Augmenter la productivité, traquer les emails, surveiller les déplacements, mesurer même le nombre de frappes sur un clavier, c'est possible et c'est un marché florissant. À l'heure des big data, il y a un risque qu'au nom de la santé et de la sécurité des travailleurs et travailleuses, un employeur ne se transforme en big brother. Éviter ce risque à l'échelle mondiale mériterait d'être une priorité.
Bulle économique de Marie Vienno. Enfin, un mot de météo, comme un petit air automnal sur la France. Des risques d'averses sont à prévoir dans le centre et le sud-ouest, mais quelques éclaircies sont cependant attendues dans l'après-midi. Des températures plutôt fraîches du nord au sud, entre 13 et 20 degrés.